Et c'est le temps maintenant de la chronique de Pierre Perrault. Allô, Pierre!
Salut!
On est dans l'insolite, mais un autre genre d'insolite, hein?
Oui, bien, mes trois premières chroniques, vous avez démontré que le Québec recèle des endroits mystérieux, méconnus, rattachés à son histoire, à ses mythes, à ses légendes, bien ancrés dans la culture collective. Mais pour ma dernière chronique, aujourd'hui, je vais vous amener sur d'autres terrains de l'insolite avec des histoires qui vont éveiller votre curiosité. On commence avec un petit sujet un peu spécial. En 2024, la presse a recensé les codes de vie et les règlements de plus de 450 écoles primaires dans la province. Ce recensement non exhaustif permet de constater à quel point la liste des comportements proscrits est longue. Certains interdits reviennent souvent. Ainsi, on assiste dans les cours d'école à la mort d'un grand classique hivernal, la bataille des boules de neige.
Oh non!
Lancer de la neige est illégal dans la majorité des établissements. Mais cet interdit ne date pas d'hier.
Ah ouais?
Nous allons nous attarder à une histoire qui concerne les joies de l'hiver à Montréal. Au milieu du 18e siècle, les autorités de Montréal ont interdit à plusieurs reprises les batailles de boules de neige jugées perturbatrices pour l'ordre public. Le juge Guiton de Montrepos, qui n'était pas de tout repos, a notamment signé des ordonnances en 1741, 1742 et de nouveau en 1753 à la suite de plaintes de citoyens dénonçant des jeunes lançant des boules de neige sur les passants. Malgré le caractère anodin du jeu, les interdictions ont été renouvelées chaque hiver, accompagnées de sanctions sévères, dont une amende de 50 livres.
On avait des livres à l'époque et non pas des dollars.
Voilà.
Ouais.
C'était la monnaie anglaise.
La monnaie anglaise, effectivement.
Ces ordonnances proclamées publiquement au son du tambour illustrent la volonté des autorités de maintenir l'ordre établi au point de considérer les batailles de boules de neige comme un véritable trouble à la tranquillité publique. Imaginez la stupéfaction si on condamnait aujourd'hui à 150 $ un écolier qui aurait lancé une boule de neige.
Mais Pierre, toi et moi, on a fait ça, lancer des boules de neige aux passants. Moi, c'était vraiment mon passe-temps favori. J'étais
je
vraiment
tanné, moi. Dans mes souvenirs, ça, je me rappelle.
Non, tout était sage, pas comme moi. Ouais, je comprends.
Non, vraiment, j'ai pas manqué ça non plus.
Alors, on reste à Montréal.
Oui, toujours à Montréal, on se transporte au Musée des Beaux-Arts. Tout le monde a bien entendu parler de l'audacieux vol au Musée du Louvre à Paris en octobre 2025.
La couronne, oui.
Mais combien savent ou se rappellent qu'il y a un crime similaire commis au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 1972? Une histoire racontée dans le recueil de Sylvain Daniel, Québec insolite, tome 2, paru en 2022. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1972, trois voleurs armés s'introduisent par un puits de lumière dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal, profitant des travaux qui avaient désactivé une partie du système d'alarme. Après avoir maîtrisé et ligoté les gardiens, ils décrochent 35 tableaux de maîtres, dont Rembrandt, Rubens, Picasso, Goya et Courbet, ainsi que 39 bijoux anciens. Lorsque le système d'alarme s'est déclenché, ils prennent la fuite, abandonnant 18 œuvres sur place. La valeur du butin est alors estimée à 2 millions de dollars, faisant de ce cambriolage le plus important de l'histoire canadienne. Quelques semaines plus tard, les voleurs réclament une rançon de 500 000 $ en échange des toiles et déposent une œuvre signée Jan Brueghel l'Ancien, qui sait, on ne sait pas, dans un casier pour prouver leur sérieux, mais il s'avérera qu'il s'agissait probablement d'une copie. Mm. En 1975, les assurances versent 2 millions au musée, qui achète alors une toile attribuée à Rubens, le léopard. Mais celle-ci sera plus tard attribuée à l'un de ses élèves. Ça n'allait pas bien pour eux.
Ouais.
Malgré une relance de l'enquête en 1992 et des récompenses offertes, aucune des œuvres volées au Musée des Beaux-Arts en 1972 n'a jamais été retrouvée. Selon certains experts, elle se trouverait aujourd'hui dans la collection privée d'un riche trafiquant en Russie ou peut-être chez Poutine ou en Amérique du Sud.
Bon, alors, on s'en va maintenant de l'autre côté du fleuve.
Oui, mais savez-vous ça? Finalement, qu'on a découvert un cimetière de bateaux à vapeur dans le fleuve à Boucherville.
Ah là là!
C'est la compagnie Molson qui est la principale responsable de ces carcasses gisant au fond de l'eau.
C'est pas de la vapeur de bière quand même.
Hein? Ben, décembre 1826, dans le froid du Saint-Laurent, un homme du nom d'Hiram Gilbert remorque une immense coque de bois, 45 mètres de long, vers les îles de Boucherville. Ce qu'il transporte, c'est ce qu'il reste du Lady Sherbrooke, le fleuron de la flotte de John Molson, le célèbre brasseur montréalais. Au début du 19e siècle, John Molson ne se contente pas de brasser de la bière. Il révolutionne aussi le transport. En 1809, il lance le premier bateau à vapeur du Canada, l'Accommodation. Construit à Montréal, ce petit navire effectue même un aller-retour Montréal-Québec en combien d'heures? 66 heures. Une prouesse pour l'époque.
C'était pas le TGV, c'est clair.
De bateau à bateau, Molson perfectionne la technologie. En 1817, on lance le majestueux Lady Sherbrooke, construit en chêne blanc, équipé d'un moteur anglais Bolton & Watt de 63 chevaux. Le Lady Sherbrooke est alors le navire le plus puissant du Saint-Laurent. En 1817, donc ça fait plus que beaucoup d'années. Son luxe est à la hauteur de sa puissance. Cabine élégante, repas festueux, musique militaire et même 3 verres de whisky par jour pour chaque membre de l'équipage. Mais la gloire des bateaux Molson ne dure jamais très longtemps. Lorsqu'un navire devient désuet, on le dépaisse, on retire son moteur, ses boiseries, tout ce qui peut être réutilisé. Puis la coque, vidée de son âme, est abandonnée dans les chenaux des îles de Boucherville, tout près de l'île Sainte-Marguerite, qu'on surnommait alors l'île Molson. C'est ce qui est arrivé au Lady Sherbrooke en 1826. Mais il faudra attendre 1963 pour que son épave soit redécouverte, gisant entre l'île Charon et l'île Sainte-Marguerite. Quant à John Molson, il s'éteint dans sa résidence de l'île Sainte-Marguerite le 11 janvier 1836, à l'âge de 72 ans.
Et on n'a pas mis son cadavre dans le fond du fleuve. Hein?
Non, c'est ça. Voilà.
Bien, Pierre Perrault, merci d'avoir passé ces 4 semaines avec nous.
Bien, ça m'a fait plaisir. Puis en même temps, j'ai redécouvert plein de choses intéressantes que je ne connaissais pas moi-même.
Oui, puis c'est le fun. La radio, c'est le fun. Ça fait du bien, puis c'est plaisant. Merci beaucoup à toi.
Tout à fait, merci.